Avec Antoine Grenier ce matin. Bonjour Antoine.
Bonjour Andréane.
En football, Mo Salah place la barre encore un peu plus haut.
Quelques jours après l'officialisation de sa prolongation avec Liverpool, l'Égyptien a mené les Reds à la victoire face à West Ham. Succès 2-1 avec une ouverture du score signée Luis Diaz sur une délicieuse passe décisive de Mo Salah. Allez voir ça. L'Égyptien impliqué désormais sur 45 buts des Reds cette saison avec 27 qu'il a inscrit lui-même et 18 passes décisives. Et dire qu'il reste encore 6 journées avant la fin de la Première Ligue.
Chez les jeunes, la CAN U20 tirage au sort de la nouvelle mouture.
Après la défection de la Côte d'Ivoire, c'est l'Égypte qui accueillera la compétition. La Tunisie, repêchée à la place des Ivoiriens, a été versée dans la poule B avec le Maroc, le Nigeria et le Kenya. Le Sénégal, tenant du titre, affrontera lui la RDC, la Centrafrique et le Ghana.
Les sports de combat aussi au programme de cette journée et le Togo qui se voit bien en place forte du MMA en Afrique.
L'heure est au bilan après la grande soirée octogonale de samedi. Après Abidjan, le promoteur Eric Fabre a posé ses valises à Lomé, la capitale togolaise, pour la 2e édition de la Ligue Eric Fabre Nation. Des combattants venus d'une dizaine de pays et dans les gradins, des spectateurs emballés sous les yeux de Gerson Dovo.
Lomé a en effet vibré samedi au rythme de la 2e édition de la Ligue Eric Fabre Nation.
11 combats, 12 pays, des combats furieux, des moins de 65 kilos jusqu'au plus de 130 kilos.
Notre objectif, c'est déjà de pouvoir impacter les combattants pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent compter sur une ligue qui leur permet de mener des combats, pour pouvoir mener leur carrière.
Des combats qui mêlent lutte et boxe anglaise. Les athlètes font donc usage de coups de poing, de pied et autres techniques de lutte encouragées par leur staff.
Mets bien.
Le Togo Les Armando Olympio au 8e combat fait forte sensation et arrache la première victoire de la soirée pour le Togo.
Je suis content d'avoir obtenu cette victoire pour le pays et ça me fait vraiment plaisir. Je ne stresse pas parce que moi je m'entraîne tous les jours.
Mais le main event de la soirée reste le combat entre la star de lutte sénégalaise Tafadine et le Thaïlandais Ted Banz. Un combat plié par KO dès le premier round. Le public en a eu tout de même pour son compte.
La soirée était magnifique et le combat c'était propre. L'organisation c'était bien.
J'ai vu le combat entre le Togolais et le Nigérien. Le Togolais, vraiment, il a été un peu à la hauteur. Mais au final, il a été perdu. Mais j'ai apprécié quand même.
Et cette 2e édition de Ligue, Eric Fabre Nation aura tenu toutes ses promesses. Gerson de Volomé, RFI.
Enfin, en cyclisme, Antoine, Binyam Girmay termine 15e de son premier Paris-Roubaix.
L'Érythréen novice sur les pavés du nord de la France, mais s'il a fini bien loin du patron Mathieu Van Der Poel, le maillot vert du dernier Tour de France a apprécié l'expérience.
C'était magnifique. Heureusement, je n'ai eu aucun problème, donc j'ai pris du plaisir dans cette course. À chaque secteur pavé, il y avait beaucoup de monde. Ça vous donne tellement d'énergie, tous ces encouragements. C'était vraiment une belle aventure. Et en même temps, c'est tellement dur. J'ai mal partout, au cou, vraiment partout. Si je vais revenir, je ne sais pas, je vais déjà me remettre de cette édition et puis on verra l'année prochaine, peut-être. À voir, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on me reverra au départ un jour et que je serai encore plus fort.
Binyam Girmay avec Thomas de Saint-Léger. Mathieu Van Der Poel, lui, a remporté Paris-Roubaix pour la 3e fois consécutive en solitaire avec un peu plus d'une minute d'avance sur Tadej Pogacar, le champion du monde, dont c'était la première participation.
Et vous, c'était votre 2e journal des sports. Il y en a encore d'autres qui arrivent. Merci Antoine Grenier. Vous revenez dans une demi-heure.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard.
De nouveaux droits de douane à venir dans la semaine sur les semi-conducteurs entrant aux États-Unis, annonce de Donald Trump ce dimanche. Un nouvel épisode dans la guerre commerciale lancée par Washington. Donald Trump qui a qualifié ces dernières heures d'horrible le bombardement russe mené ce dimanche sur la ville ukrainienne de Sumy. Au moins 34 personnes sont mortes dans cette frappe. 117 ont été blessées. Réaction du président américain qui n'a pas directement pointé la Russie. Ils ont fait une erreur, a-t-il déclaré, sans préciser de qui il parlait. Double actualité électorale ce lundi au Gabon. Brice Clotaire au Ligue Nguema en passe de remporter un premier septennat à la tête du pays. Le tombeur d'Ali Bongo donné vainqueur de la présidentielle à plus de 90% des voix. Résultats encore provisoires qui peuvent être contestés dans les 8 jours qui viennent. En Équateur, le président sortant, Daniel Noboa, revendique la victoire à la présidentielle. Il obtiendrait plus de 56% des voix. Et puis l'Algérie l'Algérie qui demande à 12 agents de l'ambassade de France de quitter son territoire sous 48 heures. Nouvelle crispation des relations entre Paris et Alger. Selon la diplomatie française, Paris se tient prête à des représailles si Alger expulse ses agents. Enfin, on l'a appris cette nuit, la mort à Lima de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa à l'âge de 89 ans. Le prix Nobel de littérature 2010 était une figure majeure des lettres sud-américaines. La présidente Dina Boluarte salue un génie intellectuel. On y revient dans le prochain journal à 8h. Il est né dans le maquis camerounais en 1957, un an avant que son père ne soit assassiné par l'armée française le 13 septembre 1958. Alors qu'est paru fin janvier le rapport de la commission Cameroun sur le rôle de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes, Daniel Oumniobé, le fils du leader indépendantiste Ruben Oumniobé, en appelle désormais aux autorités françaises à assumer les faits et à reconnaître leurs responsabilités dans la mort de son père. Père et de ses camarades. Daniel Oumniobé est notre invité ce matin. Il répond à Florence Maurice.
Bonjour Daniel Oumniobé.
Bonjour madame.
Suite à la publication du rapport de la commission Cameroun, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui?
C'est la reconnaissance des faits, la responsabilité du gouvernement français de l'époque dans ce qui s'est passé et éventuellement présenter des excuses et mettre en place un processus de réparation. Cette histoire-là, il faut l'assumer. Sinon, ça va être une histoire politicienne.
Cette histoire, c'est aussi la vôtre, Daniel Oumniobé, puisque vous êtes né dans le maquis un an avant l'assassinat de votre père.
De l'attaque du 13 septembre 1958, j'y reste le seul survivant. Donc ce jour-là, non seulement Podol Ruben Oumniobé a été assassiné, mais son plus proche collaborateur Yembak a été assassiné. Ma grand-mère maternelle, Ruth Ngonkam a été assassinée. Et il faut dire qu'au moment de l'assassinat, j'étais à côté d'elle. Et ce qui fait que j'ai ramassé une balle. Symboliquement, je me dis, bon, dans le drapeau, le rouge du drapeau camerounais, j'y suis aussi pour quelque chose. C'est aussi mon sang qui est versé.
Par la suite, dans quelles conditions vivez-vous avec votre mère? Comment est-ce qu'on fait pour vivre ou survivre lorsqu'on s'appelle Oumniobé dans ces années-là?
C'est très, très, très difficile. Donc, on vit du peu qu'on a, des récoltes des champs et tout ça. C'est dans la misère. Mais bon, il faut quand même avouer qu'on avait certains sympathisants qui, de temps en temps, passaient et donnaient quelque chose et tout ça.
Vous avez mis plusieurs années à oser aller vous recueillir sur sa tombe?
Oui, c'était interdit. On y allait la nuit. Je me rappelle, les premiers jours, c'était la nuit. Clandestinement, il fallait le faire. Ça avait une valeur pour moi.
Est-ce que vous avez envisagé de changer de nom?
Non, surtout pas. C'est une fierté pour moi d'avoir été le fils de cet homme-là.
En 1991, une loi a réhabilité plusieurs leaders indépendantistes, dont votre père. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est suffisant?
Ça n'a rien changé. Bon, là, on peut prononcer son nom, on peut prononcer le nom de ses camarades, on peut se revendiquer de lui. Mais dans les discours officiels au Cameroun, on ne cite pas ces noms-là. Rien n'est fait, il n'y a pas de lieu de mémoire. J'envisage de transférer la tombe à Boumniobé, parce que c'est les assassins qui ont choisi le lieu d'enterrement à Ezeka. Donc voilà pourquoi j'aimerais ramener cet homme-là. Mais au mois de novembre dernier, je suis allé, j'ai certainement mis une seule plaque indicative pour dire que dans bientôt, la tombe de Mpodol sera installée à cet endroit. Dans la journée, j'ai eu la visite 5 fois des gendarmes et des policiers.
Aujourd'hui, l'UPC, le parti fondé par votre père, est profondément divisé. En mai 2017, vous avez été désigné premier vice-président de l'une de ses branches, celle dirigée par l'IPOT, qui est considérée comme proche du président Paul Biya. Pourquoi ce choix?
Ça, c'est quelque chose qui m'a été imposé comme ça. Mais je n'ai jamais exercé des fonctions de premier vice-président.
C'est de la récupération?
Oui, je crois. On ne confond pas et on ne confondra jamais l'UPC, le parti nationaliste, qui a revendiqué l'indépendance avec tout ce qui est écrit aujourd'hui. Il y en a qui le font par conviction, et d'autres qui le font par opportunisme.
En 2018, on vous prête d'avoir appelé à voter pour Paul Biya.
Et je l'assume parce que je croyais que c'était son dernier mandat. Je me disais, avec l'âge, l'expérience qu'il a, avant de partir, pouvait mettre en place quelque chose. Ça n'a pas été le cas.
Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que soutenir Paul Biya revient en fait à trahir la mémoire de votre père, dans le sens où lui-même est héritier direct de ceux qui ont été placés au pouvoir au détriment des vrais indépendantistes?
Ouais. Alors ça, c'est le tribunal de l'histoire. Et moi, Je suis de ceux qui pensent que tout être humain peut changer. L'intérêt du pays.
En 2018, vous pensiez qu'il poserait un geste s'agissant de votre père ?
Ah oui. Il avait dit ça à ma mère. Je poursuis le travail commencé par votre mari. Donc j'attendais quelque chose venant de lui. Bon, ben, je m'attendais quand même qu'on facilite le transfert des restes de ces personnes-là. Qu'on cite leur nom dans les discours. Qui a un édifice des lieux de mémoire, les dates de commémoration et tout ça. Si je vous dis que je ne suis pas dessus, c'est que je suis un menteur.
Daniel Oumniobé, merci.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Daniel Oumniobé, fils du leader indépendantiste Ruben Oumniobé, entretien avec Florence Maurice à retrouver sur notre site RFI.fr. Cela fait plus d'un mois depuis le 11 mars dernier la suspension par le Soudan de toutes les importations de produits kényans, une mesure de représailles après que le Kenya a accueilli en février les forces de soutien rapide et leurs alliés à Nairobi. On en parle ce matin dans notre chronique Matières premières. Alors que demain, 15 avril, la guerre au Soudan qui oppose justement les paramilitaires des FSR aux soldats fidèles au général Al-Bouran entrera dans sa troisième année. Or, Gaël Alex, pour les producteurs kényans, la suspension des importations décidées pèse très lourd.
Ils sont plus de 200 conteneurs de thé immobilisés dans la chaîne soudanaise d'approvisionnement. Selon le ATT, l'Association Est-Africaine du Commerce du Thé, 400 sacs destinés au Soudan sont bloqués dans le port de Mombasa ou sur des paquebots au large de Port-Soudan. Les pertes pourraient atteindre les 10 millions de dollars. George Omuga, président de l'EATT, demande aux autorités kényanes de trouver une solution diplomatique. Les professionnels voudraient qu'un délai d'un mois leur soit au moins accordé afin d'écouler les stocks de thé déjà engagés dans la chaîne d'approvisionnement. Mais la situation n'a pas l'air d'inquiéter William Ruto. Dans une interview à la télévision la semaine dernière, le président a assuré que le Kenya continuait de vendre son thé au Soudan. C'est le marché lui-même qui l'oblige, explique-t-il. Une sortie qui a provoqué la colère de Port-Soudan. Dès le lendemain, son ambassade à Nairobi a publié un communiqué pour remettre les points sur les i. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de la suspension des importations soudanaises sur le secteur kényan du thé. Elles avaient déjà chuté de plus de 70% depuis le début de la guerre en 2023, selon le bureau du thé du Kenya. En 2022, elles avaient rapporté 37 millions de dollars. Dans son rapport sur l'industrie 2024, le bureau du thé du Kenya identifie de nouvelles pistes d'exportation sur le continent. Parmi elles, le Tchad, sans accès à la mer, c'est à travers le Soudan que ce pays sahélien s'approvisionnait en thé. Mais les principales destinations des feuilles kenyanes se trouvent en dehors du continent. Le Pakistan reste le premier marché avec plus de 21 millions de kilos à l'année dernière.
Gaël, Alex. Chaque jour, c'est un reportage de 20 minutes à écouter sur RFI et un extrait à retrouver en matinale. Aujourd'hui, on parle du Chili, le pays devenu maître incontestable de l'astronomie mondiale. Les observatoires les plus puissants de la planète y sont construits, attirant les meilleurs astronomes, mais aussi de très nombreux touristes. En une dizaine d'années, la ville de San Pedro de Atacama s'est ainsi transformée en capitale mondiale du tourisme astronomique ou astrotourisme, mais rien ne garantit que le ciel le plus pur du monde ne le reste pour toujours. L'observation des étoiles au Chili sous la menace, c'est un grand reportage de Marion Bellal. Tout de suite, un extrait.
La nuit au-dessus du désert d'Atacama est si riche en étoiles que la communauté indigène Likanantay a attribué des noms aux parties sombres du ciel et non aux constellations. Ce qui apparaît plus logique ici, plus que de tracer des formes en reliant les innombrables points lumineux. Sur les plus de 120 excursions astronomiques proposées aux touristes de San Pedro de Atacama, certaines permettent de découvrir cette fameuse cosmovision andine. Nous sommes dans le désert, en périphérie de San Pedro, à l'observatoire Ayocrux, fondé par José Hernández. Il y dispose notamment d'un miroir d'eau afin d'admirer le reflet des étoiles. En mitouflé dans son poncho, l'Atacaménien explique avoir cherché à développer le modèle le plus écologique possible.
Et un projet qui C'est un projet qui fonctionne à 100% à l'énergie photovoltaïque. L'eau vient de notre puits, avant que nous ne la traitions, on l'utilise une deuxième fois, voire une troisième fois pour l'agriculture. Nous avons aussi construit notre clôture à partir de broussailles et de branches, afin de ne pas utiliser du ciment pour cela. On limite notre empreinte carbone en essayant de reproduire les façons de faire de nos aïeux.
Mais malgré les efforts de quelques-uns afin de limiter la pollution, l'augmentation exponentielle du tourisme dans le désert d'Atacama est une menace non négligeable pour le ciel le plus pur du monde.
Bonjour, je m'appelle Priscilla Ordenez et ça fait 23 ans que je vis à San Pedro. Il y a environ 5 ans, j'ai commencé à peindre des vêtements avec des motifs d'étoiles et de galaxies. Les cieux d'ici m'inspirent, ça fait un moment que je vis ici, c'est très beau et puis c'est très représentatif de San Pedro.
Assise à proximité de l'emblématique petite église blanche, Priscilla Ordenez s'inquiète de la transformation de San Pedro en seulement une décennie.
Autant de touristes avec autant de véhicules, ça fait un nuage de poussière en suspension qui empêche qu'on puisse bien voir le ciel de jour comme de nuit. Ici, avant, on voyait les volcans le matin, c'était dégagé, c'était un paysage pur. Maintenant, il y a toujours des nuages, ça se voit que c'est un effet de la pollution.
Ce grand reportage de Marion Bellal a écouté en intégralité aujourd'hui sur RFI à 19h40 temps universel, 21h40 heure de Paris, à retrouver aussi en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site rfi.fr.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et au standard 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Ce lundi sur RFI.
Comment monter dans le bus spatial au Sénégal?
Autour de la question.
Pendant 37 jours, à travers des expositions, conférences et ateliers, des animateurs sillonnent 14 régions du pays pour montrer aux Sénégalais l'impact de l'exploration de l'espace sur le développement durable et leur vécu au quotidien.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI, mais aussi en podcast sur RFI.fr.